Sylvain Lecraze a découvert sa passion pour l'hydromel pendant son enfance. Presque 60 ans plus tard, il continue la fabrication de cette boisson emblématique dans sa boutique située à Concarneau. Dans cet épisode, il explique ses procédés de fabrication, ses différents débouchés, mais revient également sur certaines idées reçues liées à l'hydromel. Bonjour Sylvain.
Bonjour.
Merci de me recevoir ici. Donc on est à Concarneau, dans ta boutique.
Oui.
On en reparlera tout à l'heure, mais est-ce que pour commencer, tu peux te présenter ?
Alors je suis Sylvain Lecraze, j'ai bientôt 70 ans, non 68. J'ai travaillé comme technicien agricole auparavant. Depuis ma retraite, j'ai acheté le magasin ici où on se trouve et qui est aussi mon lieu de production. Je fais de l'hydromel après avoir été également apiculteur. J'ai laissé les abeilles cette année par faute de temps et je développe mon activité d'hydromelier.
Et comment ça t'est venu cette passion pour l'hydromel ?
Je fais l'hydromel depuis tout petit puisque j'ai commencé quand j'avais 10 ans. J'ai trouvé que c'était assez magique de faire du miel et de le transformer en hydromel. Je suis venu à l'hydromel par le biais du vin. J'ai pris des cours de œnologie.
D'accord.
Et ça m'a permis d'avoir une direction pour faire de l'hydromel, en fait.
Okay.
D'avoir un cap, d'avoir des objectifs en termes de qualité et en termes de goût.
Donc ça veut dire que ta première bouteille d'hydromel, tu avais 10 ans quand tu l'as,
oui,
quand tu l'as faite, c'est ça?
Oui, oui.
C'était comment?
En fait, je suis allé chercher du miel dans un tronc d'arbre avec mon père.
Ok.
On a récupéré le miel et il restait du miel dans la cire. Je l'ai mis en fermentation et je l'ai mise dans une petite bonbonne, un petit tonneau en bois. Et comme il faisait froid, c'était en hiver, j'ai mis le tonneau en bois dans un sac plastique et je l'ai enterré dans le tas de fumier pour que ça chauffe.
Okay. Système D.
La fermentation a bien marché. De mémoire, le produit n'était pas très bon. Mais bon, j'avais 10 ans, donc je ne suis pas sûr que mon goût était très aiguisé. Enfin, de toute façon, ouais, ça n'a pas été bu. C'était pas valable.
Okay.
Mais c'est ma première expérience.
Et tes parents étaient agriculteurs?
Oui, mes parents étaient agriculteurs.
D'accord. Ouais. Dans le Morbihan?
Dans le Morbihan.
Ok. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce qu'entre chouchène et hydromel, il y a une différence?
C'est la même chose. Chouchène, c'est un mot qui a été inventé à Rospordin fin 1800. Ça a été une marque déposée vers 1922, de mémoire, 22 ou 23, à Rospordin, par quelqu'un qui est devenu maire de Rospordin.
D'accord.
C'est aujourd'hui de nouveau une marque déposée par un liquoriste sous le nom Chouchène Hydromel.
Ok.
Dans cette histoire, on a perdu le mot d'origine qui était mez, qui désignait l'hydromel.
Et toi, tu fais de l'hydromel ici?
Moi, je fais de l'hydromel au sens large du terme. Donc, c'est eau et miel, c'est eau, miel et fruits, c'est éventuellement avec des épices. Je m'autorise toutes les possibilités.
Ok, mais sur aucune de tes bouteilles, il y a le mot chouchène écrit dessus?
Non.
D'accord. Parce qu'il faudrait payer pour la licence pour pouvoir appeler son produit chouchène, c'est ça?
Non, parce que celui qui est propriétaire de la marque aujourd'hui, c'est une marque semi-figurative.
D'accord.
Et donc, c'est l'ensemble qui est déposé. C'est-à-dire qu'il y a la bouteille qui est déposée avec le mot chouchène accolé avec le mot hydromel.
D'accord.
C'est l'une des raisons pour lesquelles je ne veux pas utiliser le mot chouchène.
D'accord.
Parce que si dans un an, on me dit, telle société vous demande d'arrêter ou de payer, je veux pas en arriver là, quoi.
Ok. Et je te propose, pour continuer, qu'on fasse un petit point d'histoire, si tu veux bien, sur l'hydromel. Donc déjà, depuis quand on en consomme?
On en consomme depuis, on va dire, au moins 9000 ans, puisqu'on a trouvé des traces de fabrication d'hydromel dans le nord de la Chine, dans la province du Henan. On a retrouvé dans des jarres, des traces de miel avec des fruits, des petits fruits et des céréales.
D'accord.
Donc, c'est les premières traces attestées d'hydromel. Okay. Mais on en a fait après partout dans le monde, en Égypte, en Grèce antique, en Italie, donc la Rome antique également, quoi.
Oui, parce que dans la mythologie grecque et romaine, on en entend souvent parler aussi. Hein.
Oui, dans les mythologies, pratiquement toutes les mythologies, puisque en Inde, c'est le cas aussi, en Afrique.
Ah ouais.
En Afrique, Madagascar, entre autres, c'est lié au culte des morts. Afrique centrale également. On fait de l'hydromel également en Éthiopie. C'est le pays où on consomme le plus d'hydromel aujourd'hui, certainement. C'est la boisson de ménage en Éthiopie.
Ce que tu appelles boisson de ménage,
c'est la boisson courante.
D'accord. Okay. Ouais,
nous, quotidiennement, on buvait du cidre il y a quelques années à table régulièrement. Ouais. Chez eux, c'est l'hydromel. Okay. Et c'est fait par les femmes. C'est eau et miel avec une plante amérisante qui s'appelle le guécho.
D'accord.
Donc ils font ce qu'on appelle le tetch, qui est un hydromel éthiopien, okay, qui est très utilisé là-bas.
T'as un peu devancé ma prochaine question, c'était justement aujourd'hui, où est-ce qu'on en consomme, où est-ce qu'on en fabrique ? J'ai l'impression qu'on en fait partout.
On en fait partout dans le monde. Partout où il y a des abeilles, il y a de l'hydromel. Même dans les endroits où on pourrait penser qu'il n'y en a pas, parce que c'est difficile d'avoir des abeilles, en Alaska.
Ah ouais ?
Il y a plusieurs hydromelleries en Alaska.
Ok, mais comment ils...
Eh ben, il y a des... non, je ne pense pas, parce que ils ont une plante qui s'appelle l'épilobe, qui fleurit d'un coup, dès qu'il commence à faire beau.
Ouais.
Les abeilles, les apiculteurs du Canada et de cette région mettent des abeilles en silo, enfin dans des pièces climatisées l'hiver.
Ok.
Et les ressortent quand les fleurs sont là, quoi.
Moi, j'ai appris en préparant le sujet que l'hydromel a eu et a toujours apparemment mauvaise presse, mauvaise réputation.
Oui.
Est-ce que tu peux expliquer pourquoi ?
Alors, je pense que ça a mauvaise presse pour plusieurs raisons. Je pense que la première raison, c'est que quand on fait de l'hydromel et qu'on ne maîtrise pas la fermentation, on fait souvent n'importe quoi. On ne peut pas le reprocher, mais si on fait un hydromel qui s'arrête au milieu de fermentation et qu'on a prévu de faire un moelleux, ben c'est du sirop, quoi. Et les apiculteurs, beaucoup d'apiculteurs qui font de l'hydromel, on va dire un peu au passé aujourd'hui parce qu'il y a des progrès, ne maîtrisent pas la fermentation et ben, le résultat est totalement aléatoire.
D'accord.
Donc si c'est aléatoire, un coup c'est bon, un coup c'est pas. Et puis il y a des standards, comme si les fermentations sont souvent non abouties, on a des produits très sucrés. Bon, après, il y a toute une histoire de légende qui dit que quand on met en arrière, que si, que ça.
Oui.
Ça n'existe qu'en Bretagne, donc c'est une vraie légende.
Donc la légende dit que quand on consomme trop d'hydromel, les gens tombaient à la renverse.
Oui, on disait qu'on tombe à la renverse. On tombe à la renverse en avant, en arrière ou sur le côté si on boit de l'alcool. Comme l'hydromel. L'hydromel, ouais, c'est alcoolisé.
Et ça, c'est une légende qui a encore lieu d'être aujourd'hui. Enfin, les gens pensent encore ça.
Oui, les gens de mon âge le pensent, oui.
Oui, alors que bon, oui, c'est vrai que c'est lié à un excès d'alcool, sûrement. Quoi.
C'est lié à un excès d'alcool. Il est possible aussi que ça vienne d'une mauvaise fermentation. Tout à l'heure, je parlais de difficultés à fermenter chez des gens qui ne maîtrisent pas. Si on produit de l'alcool méthylique, effectivement, c'est très dangereux.
D'accord.
Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles on dit que l'hydromel fait tomber en arrière.
Alors, pour faire un bon hydromel, comment on fait ? Est-ce que tu peux détailler les étapes ?
Alors, première chose, c'est de choisir un bon miel, parce qu'on ne fait pas un bon hydromel avec un mauvais miel. Deuxième chose, c'est de choisir une eau de qualité. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser une eau acide pour... déjà, je voulais une eau de source. Et ensuite, je voulais une certaine fraîcheur en bouche. Donc, j'utilise une eau acide. J'ai des collègues qui utilisent des eaux avec des pH un peu plus élevés. Et ça marche aussi.
Mais tu me racontais, c'est que là, on est à Concarneau et tu vas chercher ton eau dans le Morbihan.
Je vais chercher mon eau dans le Morbihan. Je suis un jusqu'au boutiste.
Ok, donc ouais, une eau de qualité, un miel de qualité.
Oui, eau de qualité, miel de qualité et une bonne levure. Alors, il y en a qui vont dire, ah oui, mais les levures, ce sont les levures qui transforment le miel en alcool.
Oui.
Les levures, on a un choix énorme dans le commerce. On a un choix énorme aussi dans la nature. Sauf que dans la nature, si on veut utiliser les levures sauvages, il faut les tester. Moi, j'en utilise. J'ai eu de très beaux résultats et des résultats des cas où j'ai jeté mon produit parce que c'était imbuvable.
C'est quoi ce que tu appelles levure sauvage ?
On peut trouver des levures sur des pommes, sur des...
Ah oui.
sur des cerises, sur des prunes, sur ce qu'on veut.
D'accord.
Sur des feuilles même, pourquoi pas, ou les capter dans l'air comme on fait en Belgique pour certaines bières. Mais il faut absolument tester avant. Je ne suis pas contre les levures sauvages, mais il faut les tester.
D'accord.
Donc, je préfère, en général, utiliser des levures sélectionnées où j'ai accès caractéristiques des levures, donc à savoir les températures de fermentation, le profil que ça va donner au niveau texture, la capacité à résister à l'alcool. Il y a des levures qui vont s'arrêter à 8 degrés, et des levures qui vont aller à 16 degrés. On ne fait pas n'importe quoi.
Ok. Et une fois, donc c'est les trois ingrédients de base.
Les trois ingrédients de base.
Tu mélanges tout ça.
Je mélange tout ça avec de l'eau. Il faut 23 grammes de miel pour faire un degré d'alcool. À partir de là, je fais mon calcul. Si je veux faire un sec, un liquoreux, un produit très peu alcoolisé, plus alcoolisé, je mélange le tout. Je fais en sorte que la température corresponde bien pendant la fermentation à la fourchette de température prévue par la levure.
Oui.
Et en 3 semaines, la fermentation elle est finie. Et là commence l'élevage, qui dure à peu près 1 an.
D'accord. Donc l'élevage, c'est le temps de
maturation.
De maturation dans la cuve.
Oui, tout à fait.
Donc est-ce que tu peux justement détailler cette partie, quel genre de cuve tu utilises, combien de temps ça va rester?
Alors, mes fermentations, je les fais en cuve inox. Je fais un soutirage à l'issue de la fermentation et je le laisse en cuve inox pendant 1 an. En général, c'est comme ça. Et je mets en bouteille après. Et si je trouve que le produit n'est pas tout à fait abouti, que j'ai envie de lui donner une autre tournure, je peux le faire vieillir en fût de chêne.
D'accord.
Et à ce moment-là, je laisse entre 6 mois et 3 ans en général pour le vieillissement en fût de chêne, suivant le produit que je veux obtenir. Et si je veux faire un produit oxydatif, c'est jusque 8 ans de fût de chêne.
Ah oui.
Oui.
OK.
Donc là, j'ai un produit oxydatif en sec qui a été démarré en 2018, qui sera mis en bouteille en 2025.
Ok. Quand tu dis oxydatif, c'est le type de fermentation ?
Non, c'est le type d'élevage. C'est une cuve qui prend un peu d'air, si on veut.
Et comment t'es équipé ici ? Combien de cuves tu as ? C'est quoi un petit peu le matériel avec lequel tu travailles ?
Alors, j'ai des cuves de 1000 litres, une cuve de 1000 litres. J'ai plusieurs cuves de 300, j'ai une cuve de 500, j'ai un lot de 6 barriques. J'ai des petites cuves pour faire des essais de 175 litres. J'ai des Dame Jeanne pour faire mes tests et mes petits lots pour m'amuser.
D'accord. Tes produits sont commercialisés sous la marque Olabutine ?
Olabutine, c'est ça, oui.
C'était quoi les différents hydromels de ta gamme ?
Alors, j'ai ma gamme assez étendue. J'ai les hydromels secs, j'ai les demi-secs et des moelleux. J'ai aussi des pétillants et des plats. J'ai des hydromels qui vont accompagner plutôt poissons, fruits de mer, d'autres qui vont plutôt accompagner une charcuterie, d'autres qui vont être utilisés avec une volaille, d'autres qui vont plutôt être utilisés sur le fromage. Et d'autres qui vont très bien se marier avec un dessert.
Et est-ce que tu as une cuve signature ou une bouteille signature ?
C'est presque comme demander à un père l'enfant qu'il préfère.
C'est beau. Belle métaphore. tu les aimes toutes ?
Ouais, tout à fait.
Ok. Et la toute première que tu as amenée dans la gamme, c'était quoi ?
Ah, la toute première, on va dire que c'est la cuvée Pierre Lecrase. Pierre Lecrase, c'était le grand-père de mon grand-père.
Ouais.
Il y avait un bistrot dans le bourg de Langonnette, d'où je suis originaire, dans le Morbihan. Et pour cette cuvée-là, c'est un miel qui est entier, donc qui est resté dans ses alvéoles. Donc il est avec sa cire et ses traces de propolis et de pollen.
D'accord.
Donc j'ai un produit assez particulier. Pour moi, c'est mon hydromel tradition, mon premier hydromel.
Ok. Et justement, je reviens un petit peu, je reviens en arrière, mais au tout début, tu disais que ta première cuvée, c'était à 10 ans. Et à quel âge tu as été satisfait de ta cuvée où tu as vraiment dit, c'est un bon produit, quoi.
Quand j'avais à peu près 20 ans, j'ai fait une cuvée dont je n'étais pas très satisfait. Et j'ai oublié des bouteilles dans la vieille maison chez mes parents. Quand j'ai goûté presque 30 ans après, j'ai trouvé que c'était magique. Donc je me suis dit, bon, il faudrait que je m'y remette.
Il est resté 30 ans, en bouteille ?
Oui, et la dernière bouteille a été bu le jour où ma fille m'apprenait que j'allais être grand-père.
Ah, c'est incroyable.
Et la bouteille avait 36 ans.
Et quel volume tu produis à l'année ?
Je produis à peu près entre 4 et 6 000 bouteilles par an. Très petite production. À mon échelle, je travaille tout seul, donc je m'occupe de la fabrication, du conditionnement... de toutes les manipulations qu'on a dit tout à l'heure, de la vente, J'ouvre le magasin 3 jours par semaine. Je travaille tout seul, donc j'ai une production à mon échelle.
C'est quoi tes débouchés ?
Mes débouchés, c'est restauration étoilée en général. C'est épicerie fine, c'est caviste.
Ouais.
Et puis, ces gens-là m'amènent des clients au magasin. D'accord. Donc, j'ai une clientèle de particuliers au magasin, une clientèle assez jeune en général.
Tu participes à des concours régulièrement ?
Oui, j'ai commencé à participer à des concours au niveau local depuis 2012, jour de mémoire. Et donc, j'ai eu à mon premier concours une médaille d'or. J'étais très surpris, je ne m'attendais pas trop. Et puis, je ne savais pas si mon produit était au niveau ou pas.
C'était un concours en Bretagne ?
C'était un concours en Bretagne, dans le Finistère.
D'accord.
Et bon, j'ai poursuivi. J'avais à peu près 1 an sur 2, j'avais une médaille. Argent ou bronze.
Okay.
Et en 2018, j'ai rencontré des hydromeliers européens. Il y avait un Ukrainien, il y avait des Espagnols, il y avait un Suisse. Et ils m'ont un peu entraîné à venir à un concours en Pologne. Et là, en 2019, j'ai eu une très grosse surprise. J'ai eu une médaille de bronze, une médaille d'or, et j'ai eu le trophée du meilleur hydromel d'Europe. Donc j'étais très, très content, très surpris. Et c'est ce qui m'a mis un peu les pieds à l'étrier. C'est ce qui m'a permis de... Enfin, qui m'a poussé, en tout cas, à poursuivre.
D'accord. Ça, c'était en 2019 ?
2019, oui.
D'accord. Et ce concours en Pologne, il est assez réputé ?
Oui, c'est le deuxième concours mondial.
Parce qu'ils font beaucoup de... La Pologne est un gros producteur ?
Ah oui, c'est le premier pays producteur d'Europe. Donc, les concours ont lieu maintenant à Varsovie tous les ans, au mois de février. J'y vais tous les ans. Et donc, je participe à un concours à Madrid également, sans y aller, mais je participe. J'ai eu aussi médaille d'or et médaille d'argent à Madrid avec deux de mes produits.
Quand tu me faisais visiter tout à l'heure, j'étais assez surpris parce que moi, pour moi, hydromel, c'était vraiment eau et miel. Et en fait, ici, tu fais beaucoup de choses à base de fruits aussi.
Oui, je fais des hydromels à base de fruits, à base d'épices, comme on fait partout dans le monde, sauf en France où on pense que l'hydromel, c'est de l'eau et du miel.
Voilà. Alors qu'en fait, on peut faire comme ça,
c'est dit.
Ok, le message est passé. On peut faire vraiment ce qu'on veut, en fait.
On fait ce qu'on veut. En tout cas, je m'y autorise. Je pense qu'en France, on a commencé à dire que l'hydromel c'était eau et miel en 1911, quand la taxe était plus importante sur les produits qui contenaient des fruits. Puisque avant, probablement pour des raisons de, on parlait de levure pour faire des fermentations. On avait des levures sur des fruits, on avait des sels nutritifs, des éléments nutritifs pour les levures dans les fruits. Donc, il est assez logique que nos anciens utilisaient les fruits dans les hydromels.
C'est quoi les futurs projets que tu as ?
J'ai deux projets, c'est de faire du vinaigre, puisqu'on m'a demandé si j'avais du vinaigre. Et jusque-là, je disais non. Et j'ai commencé à en faire. Je suis assez content du résultat. Et la deuxième chose, ça concerne directement l'hydromel. Je veux faire des hydromels légers, pétillants, à 8 degrés, 7-8 degrés, dans un esprit un peu festif, pas trop alcoolisé, cidre, pour remplacer un cidre. Ouais.
Pour finir, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui veut se lancer dans la production d'hydromel ? Ce serait quoi tes conseils ?
Je dirais qu'il faut se fixer une cible. Il faut se définir une cible. Donc, il faut savoir goûter et chercher à savoir qu'est-ce qu'on veut faire. On ne se lance pas comme ça en disant « je veux faire de l'hydromel » sans savoir ce qu'on veut faire. Donc, il faut goûter et se dire bah, « ça m'intéresse, ça me plaît, j'aimerais faire ça ». Et à partir de là, trouver le chemin pour y arriver.
D'accord.
Donc, maîtriser les fermentations, maîtriser l'élevage, respecter les règles d'hygiène parce que c'est important. Tout à l'heure, on parlait de problèmes de la fermentation. C'est important de respecter les règles.
Merci beaucoup pour ces conseils. Merci beaucoup pour l'échange. C'était super intéressant. J'ai appris plein de choses.
Pas de soucis.
Merci. Et puis, à la prochaine.
À la prochaine.
Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas à laisser un avis sur Apple Podcasts et Spotify. Et vous pouvez partager cet épisode autour de vous. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde dans le PBcast, dites-le nous en commentaire ou bien sur les réseaux sociaux du journal. À dans un mois.